à la découverte de la création sonore et radiophonique. Une émission de 48 FM proposée par Guillaume Delorme. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de notre émission permettant la découverte de la création sonore et radiophonique. Nous poursuivons et nous terminons ce soir la diffusion du documentaire de Pascal Pascariello intitulé « Les braqueurs ». C'est une production d'arteradio.com en partenariat avec Slate. Braquer une banque, dévaliser une bijouterie, attaquer un fourgon blindé, un casse se prépare comme le tournage d'un film. Trois grands braqueurs racontent leur dangereux métier. Après François il y a 2 semaines, Mickey la semaine dernière, et ben c'est le moment de découvrir Tito. Dans le premier épisode consacré à Tito, on découvre qu'il est né en Haïti, a grandi en banlieue parisienne avec un père abusif et brutal. Et Tito déteste la violence, à tel point que, atteint d'une grave dépression suite à la stérilité de sa femme policière, il n'envisage comme porte de sortie que de mourir sous les balles de la police.
J'ai pris le calibre, je l'ai mis à ma taille. Je suis rentré dans la banque, je suis ressorti au bout de 15 minutes, sans violence, sans rien. Par toutes les émotions, j'avais l'impression d'avoir une gastro, d'avoir envie de vomir, d'avoir envie de me pisser dessus. Mais une fois que je suis rentré à l'intérieur, tous ces symptômes-là se sont envolés. C'est comme si j'avais l'impression d'avoir été fait pour ça.
Les braqueurs. Tito. Épisode 1.
Chaque fois que je passe devant une petite banque, hein, je me dis allez, si on remettait le couvert, mais bon, je le dis toujours pour rigoler. Hein, c'est vrai que même si je connais le mode opératoire, hein, je pourrais remettre ça, mais pour l'instant, j'ai pas besoin de retour dans le charbon, tout se passe bien, et pourvu que ça dure. 11 braquages, un visage découvert, une dépression sévère. Qui me fait tomber dedans, quoi. Tant qu'on n'a pas mis un nom sur ce qu'on est en train de vivre, sur ce qu'on est en train de faire, ben on n'est pas conscient, on ne sait pas, quoi. Et on cherche à en finir avec la vie d'une façon ou d'une autre, mais on a plus envie que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse que soi-même, quoi, pour pas avoir le sentiment d'être un lâche ou quoi que ce soit, alors qu'on n'a qu'une envie, c'est de disparaître. Toute ma période, les 5 mois et 11 banques que j'ai braquées, je ne vivais que pour ça. Me dire que je vais sortir, je ferai un faux mouvement, à cet instant, on va me cribler de balles ou je sais pas, et on me donnera mon petit cadeau. Je suis venu d'Haïti, c'est-à-dire ma mère, elle est arrivée ici, elle avait peut-être 18 ans, c'est-à-dire elle m'a mis au monde et elle s'est barrée avec mon père et elle m'a laissé entre les mains de ma grand-mère. Elle a attendu d'économiser, de travailler comme femme de ménage. Mon père, il travaille à l'usine chez Citroën et ils ont économisé et ils m'ont fait venir moi et ma grand-mère d'abord. Et c'est à l'âge de mes 5 ans C'est là que j'ai su que ma mère elle vivait en France. Ici, c'est le quartier Karl Marx. Mais c'est toujours Bobigny, quoi. C'est là où je suis arrivé en sortant d'Haïti. C'est beau, hein. Administrativement, moi, je suis né de nom Roosevelito Bernardin. C'était assez facile à la période où je suis venu pour avoir les papiers. Il nous avait juste fallu de franciser le nom pour qu'on puisse m'octroyer les papiers français. C'est-à-dire, de Roosevelito, c'est passé à Pierre. Pierre, c'était le nom de mon père. Pas la personne que je porte le plus dans mon cœur. Lui, dès qu'il il avait un coup dans le nez, il fallait qu'il se défoule sur sa femme, sur ma mère, quoi. Celle qui lui repassait ses vêtements, qui faisait la bouffe, qui attendait sagement, quoi. J'ai assisté à tout ça, impuissant au début, parce que j'étais peut-être un peu craintif. C'est-à-dire, quel que soit ce que je vais faire, est-ce que ça va le faire partir ? Et toute cette souffrance dans les yeux de ma mère, ben, je me suis dit, ben, attends, ça peut pas durer, quoi. Faut que ça stoppe. Mais ben, à un moment donné, juste une image, juste un mot, peut vous faire changer la vie. Moi, c'était une posture de ma mère, recroquevillée sur elle-même, en train de nettoyer un poulet. Et ce père sortant encore chez une de ses putes. Et là, je me suis mis devant lui. Je lui ai dit, écoute, tu vas arrêter ça tout de suite. Parce que c'est l'énervement qui commence à monter dans ma tête. Mais à ce moment, comme j'arrivais plus à parler, et cette colère commençait à monter, mais j'ai pris un couteau. Et le couteau, je lui ai mis sous la gorge. Que j'ai bien appuyé pour lui faire sentir que j'étais déterminé. Et je lui ai dit, tu sais quoi ? C'est la dernière fois que tu vas lui lever la main dessus. C'est la dernière fois que tu vas lui crier dessus. Il dit, c'est simple, aujourd'hui on ne veut plus te voir dans la baraque. Et c'est de là qu'à mes 13 ans, j'ai fait partir mon père du foyer. Voilà. Une fois que mon père, on l'a fait dégager de la baraque, j'ai commencé à bosser très tôt. C'est-à-dire, j'ai passé mon diplôme de carreleur mosaïste. Je travaillais sur les chantiers, des trucs comme ça. Après 17 ans, je fais une connerie avec des potes à moi. On défonce une boutique. C'était une boutique de farce et attrape, des pétards. On a rempli des sacs de pétards, des gros mammouths, on était contents comme des gamins. Et on s'est dit, allez, on va tout faire péter, on va les éclater. Sur le chemin, on se fait rattraper par les flics. Le jour du jugement, la proposition qu'ils m'ont faite, c'était soit la prison à 17 ans, soit je partais à l'armée dans une caserne semi-disciplinaire. Chose que j'ai acceptée pour éviter la prison. Je suis resté 24 mois. Et quand j'ai voulu m'engager, j'avais tellement de casseroles derrière moi, on m'a refusé l'incorporation de m'engager. Je suis retourné dans la vie civile. Après, un soir, j'allais me balader, j'allais en boîte avec un ami et je passais par la rue Saint-Denis. Je suis tombé face à quelqu'un que je connaissais, quelqu'un qui était un peu plus âgé que moi. Et je lui ai demandé ce qu'il faisait là, il m'a dit protéger les nanas, tout et tout. Et j'ai regardé comme ça, j'ai dit mais je peux faire ça moi aussi. Il m'a dit ouais, pourquoi pas, tu pourrais le faire, tout et tout. Ouais. Il m'a dit ouais, je pourrais te prendre sous mon aile, à l'entraînement, tout ça. À mon âge, à la vingtaine, quelqu'un que tu te dis que tu peux voir que dans les films, te dire un truc comme ça, c'est flatteur. Peut-être que c'était sa façon d'opérer pour me mettre en confiance et de me mettre un peu plus dans sa poche, quoi. Mais il m'a donné 10 000 francs, il m'a dit « éclate-toi ». et achète-toi un ou deux costumes, sors, prends un ou deux potes avec toi, et va t'éclater, tu verras. Je dis, il va voir quoi ? La seule chose qu'il va voir, c'est que je vais éclater son argent. C'est ce que je me suis dit, à 20 ans, avoir 10 000 francs comme ça. Et j'ai pris 10 000 francs, je suis parti en boîte, et le lendemain, je ramenais une nana qui voulait bosser. Un mois après, je lui en ramenais une autre. C'est comme s'il a voulu me faire montrer que, regarde, quand t'as de l'argent, c'est différent que quand t'en as pas. Je rentrais dans des endroits où j'avais pas l'habitude d'aller. C'est l'argent qui a pu m'ouvrir les portes de ces clubs-là, et c'était essentiel. Chaque mois, je me faisais 20 000 francs à mon jeune âge. Voilà, en échange, il n'y avait pas d'acte sexuel. Je travaillais pour ces filles par le biais du Big Boss, du Proxo. Et lui-même, comme il disait, interdit de toucher, quoi. Il n'y avait pas de relation sexuelle, rien du tout. Ces femmes-là que j'ai pu protéger, côtoyer, je les remercie parce qu'elles ont pu ce rôle d'éducatrice sexuelle. Non pas dans la pratique, mais dans la théorie, comment amener le désir sans pénétration, sans plein de choses. Et elles ont été des profs. Et j'ai préféré qu'elles soient tenues à ce rôle de prof que d'objet sexuel, quoi. Ça a été mes premières années où je suis rentré, comme on va dire, dans un milieu du grand banditisme, on va dire. Et ces années-là ont été très bénéfiques pour moi puisque j'ai pu acquérir encore plus de maturité. C'est peut-être aussi ces années-là qui ont fait que j'ai acquis cette patience et ce calme. Je suis sorti de ce milieu parce que il y a eu cette vague d'assassinats à un moment donné où c'était la guerre, quoi. C'est machine à sous, prostitution, le terrain. Cette concurrence est arrivée jusque sur le gars pour qui je travaillais, papy, quoi. Ils ont commencé à éliminer telle personne, ils en sont à éliminer le papy. Et moi, dès qu'il est mort, je me suis écarté. Il fallait que je sorte de ce milieu pour retrouver le moi que j'étais. Je pensais que tout m'était dû, quoi. J'avais une revanche à prendre sur rien du tout, si ce n'était que réussir ma vie correctement, honnêtement, en ayant une petite vie de famille propre, comme tout le monde désire avoir. Oui, ça pour moi, c'est une revanche sur ce que notre père nous a fait subir. Il y a des cartes qui sont distribuées sur cette vie-là, mais j'ai pas eu les bonnes cartes qu'il fallait. Il a fallu que je trace mon chemin avec les cartes que j'avais en main. Avant d'en arriver à la série de braquages, tout ça, j'étais marié, je menais une vie tranquille, une vie pépère, avec une femme, policière elle-même, et la trentaine, tout se passait bien. J'étais chef de poste dans une grande boîte de sécurité. Et après, le basculement avec l'annonce de la stérilité de cette femme, j'ai fait montrer à cette femme que, quoi qu'il arrive, qu'elle puisse pas avoir d'enfant ou pas, on en adoptera. Et il y a eu une tas de pression elle-même, trop jeune pour supporter tout ça. Mais elle a succombé à toute cette pression et a demandé le divorce. Tout a basculé à ce moment-là parce qu'on n'en parle à personne. On garde tout pour soi. Pour moi, toute ma vie, ça a toujours été ce combat acharné, être l'inverse de ce que mon père a pu être. Ce mauvais père, ce mauvais mari, aimant frapper sa femme. Pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai oublié de faire ? Qu'est-ce que je n'ai pas dit ? C'était toutes ces questions-là qui me rongeaient. Ce sentiment d'échec total, d'avoir foiré là où je voulais à tout prix réussir. J'ai continué à sombrer, à sombrer, à sombrer. Mais ce sombrage m'a emmené jusqu'à un moment donné où je me suis dit « Ah, j'en ai plus rien à foutre ». J'avais l'impression d'avoir perdu la personne qui m'était le plus cher au monde. Alors, à quoi ça sert de continuer si j'ai pas ma moitié à côté de moi ? Après, un matin, je me réveille, je dis « Ah, j'en ai plus rien à foutre ». J'avais une arme devant moi et je dis quoi ? Je m'en fous dans la tête ? Non. Je tire sur les gens ? Non, c'est pas dans mon tempérament, c'est pas ça. Je dis ben, « Qui mieux qu'un flic peut m'allumer ? Mais comment faire pour qu'il puisse venir m'en mettre une ?» Alors, c'est resté en suspens et après, des amis viennent me chercher, me font monter dans une voiture, on va se balader. On devait aller manger au restaurant, je crois. C'était en 2005. Et je me suis mêlé d'une conversation que j'aurais peut-être pas dû. Où eux prenaient leurs exactions passées en mettant en avant leur côté assez pro. À un moment donné, je pense que ça m'a gonflé de les entendre parler de leur façon de braquer. Moi, je voyais plus de la violence dedans qu'autre chose. Alors je me suis permis de leur dire que voilà, je suis désolé. Si c'était moi, il n'y aurait pas eu de violence, il n'y aurait rien eu de tout ça. Ils m'ont demandé de fermer ma gueule, chose bien sûr que j'ai pas fait. J'ai dit non. Et sans le savoir, ils ont continué à avancer la voiture. Et ils se sont arrêtés devant une banque. Il y en a un qui m'a sorti un calibre. Il m'a dit, puisque j'ouvre ma gueule, soit je la ferme, ou si je continue à l'ouvrir, je prends ce calibre et je vais leur montrer comment j'aurais pu faire. À ce moment-là, je me suis dit, tiens, tu cherches à en finir avec la vie, c'est peut-être ce moment-là. Tu vas peut-être rentrer dans cette banque-là. Et peut-être qu'à ce moment-là, tu auras la délivrance à l'extérieur face à la police. Tu n'auras qu'à faire un faux mouvement ou quoi que ce soit et tu auras la paix.
Calibre, je l'ai mis à ma taille, je suis rentré dans la banque, je suis ressorti au bout de 15 minutes, sans violence, sans rien. 4 500 €. Je suis sorti de la banque comme je suis rentré. Tout simplement. Un visage découvert. Je sors de la banque et c'est quand je commence à marcher et que j'avance vers la voiture. Là, j'ai ressenti sur le moment une fierté, mais pas une fierté de ce que je venais de faire, mais une fierté d'avoir pu faire en sorte qu'ils fait. Je savais qu'ils allaient fermer leur gueule, quoi, parce que moi, je l'avais pas ouvert pour rien, quoi. Moi, je vous ai dit que j'allais faire quelque chose propre et sans violence. Et j'ai balancé l'argent comme ça sur eux, voilà. Et personne n'a rien dit, ils m'ont regardé stupéfait, c'est tout. Comme je dis, je suis dans cette dépression, je suis à la recherche de quelque chose. Me faire tuer.
À suivre.
Et je vais pas m'arrêter là tant que j'ai pas eu ce que je veux.
Sur arteradio.com.
Vous êtes toujours sur 48FM dans votre émission qui vous permet d'écouter de la création sonore et radiophonique. Et nous poursuivons notre diffusion du documentaire de Pascal Pascariello, produit par arteradio.com en partenariat avec Slate, intitulé Les Braqueurs. Et vient maintenant le deuxième épisode consacré à Tito. Tito qui décide d'agir à visage découvert avec une arme en plastique. Au fur et à mesure, il parfait sa connaissance des systèmes de sécurité et apprend à éviter les pièges.
Je suis rentré, j'ai regardé à droite, j'ai regardé à gauche. J'ai vu le nombre de personnes qu'il y avait au guichet. En une fraction de seconde, j'ai pu observer tout ça, comme si j'étais un professionnel, alors que pas du tout. J'étais derrière quelqu'un. Mon tour, il est arrivé. J'ai eu juste un moment d'hésitation. Une personne est arrivée derrière moi, je l'ai laissé passer en lui disant que j'attendais ma femme. J'ai vu le bureau du directeur d'agence. Et je suis rentré dans son bureau, je lui ai montré mon flingue. J'ai vu un sac en plastique sur le bureau. Je lui ai dit, prends le sac, tu vas me le remplir. Et je lui ai juste dit, si tu fais tout ce que je te demande de faire, je repartirai aussi vite que je suis rentré et que ton personnel il est sous ta responsabilité. Et j'ai remis mon calibre à ma taille. Et je l'ai suivi, il me l'a rempli. Et je suis ressorti.
Les braqueurs. Tito. Épisode 2.
Le lendemain, je suis rentré chez moi et après chaque réveil était pareil aux autres. Je prenais mon calibre, j'allais braquer une banque tout en me disant qu'il y aura sûrement un membre du personnel qui va donner l'alarme à la police et quand je vais sortir, ils seront tous devant en train de m'attendre à braquer les armes sur moi. Mais jamais ça s'est arrivé. J'ai jamais mis en joue aucune personne sur mes 11 banques. Il y a déjà cette violence d'avoir l'arme sur soi, il y a déjà cette violence qu'on inflige à la personne. Elle sait que sa vie est en danger. Je vois pas l'intérêt de lui mettre l'arme sur la tempe. J'ai toujours fait comme ça. J'arrive, je le montre et je le range. Pour moi, c'est ça, un beau braquage, c'est ça. C'est rentrer propre et ressortir propre. C'est tout. C'est pas parce que c'est moi qui les ai commis, mais pour moi, c'est ce genre de braquage-là qui devrait rester dans les annales du grand banditisme, puisque ça a été des braquages perpétrés sans violence, même si c'était avec une arme en plastique. Voilà. Dans le centre commercial, avant, il y avait une petite boutique qui vendait tout ce qui était farce et attrape, jouets. Des trucs comme ça, et à chaque fois j'allais chez lui, je lui prenais un de ces pistolets-là, qui ressemblait à, on va dire, un Desert Eagle. C'est un pistolet assez impressionnant. Il est assez costaud, et je prenais pas une couleur bizarre, je prenais une espèce de noir, un petit peu mat, un truc comme ça. Il faisait assez vrai. C'est-à-dire, quand tu le voyais, il fallait que tu viennes le toucher pour voir que c'est un faux. Je voulais pas mettre la vie du personnel en danger, mais dans ce cas-là, je braque tout seul. J'allais braquer une banque par mois. Je me levais le matin, je prenais la voiture, un petit flash de whisky dans ma voiture, je buvais, je roulais. Sans destination, je prenais le périph. Je roulais. Mais je crois que je me retrouvais souvent dans le 91 ou dans le 77. C'était des destinations qui étaient pour moi assez loin de ma banlieue du 93 de Bobigny. Je voyais une banque, je garais la voiture, je m'asseyais dans un parc et j'arrivais à cette banque à la fermeture. Là, je pars pour braquer, je pars à visage découvert. C'est comme l'artiste qui va monter sur scène, il a ce tract. Et le tract part une fois qu'il a mis pied sur scène. Ben, moi, c'était la même chose. Une fois que je mets un pied à l'intérieur, ben, c'est la transformation totale. J'ai l'impression d'être chez moi, que je connais chaque recoin, que les personnes qui sont à l'intérieur, ce sont mes voisins. J'ai vraiment cette impression d'être chez moi. Je transpire la tranquillité et c'est ce que j'ai toujours voulu véhiculer aux personnes qui peuvent être prises à l'intérieur de ces banques. Ils restent tranquilles, je prends ce que j'ai à prendre et je m'en vais. Confiant, serein et posé à l'intérieur.
Mais il n'y avait pas ce sentiment d'adrénaline parce que je cherchais plus à me faire allumer qu'autre chose. Et j'avançais comme tel un mort, sans être animé d'aucun sentiment, juste le sentiment d'en finir. Parce que je me disais, tel un enfant, j'aurais mon cadeau en sortant de cette banque. La pastille qui atterrit dans ma tête ou la rafale qui atterrit dans mon corps. Je me présente juste en disant bonjour et ils répondent bonjour. J'ouvre juste ma veste, je leur montre mon calibre et je leur demande de garder leur sang-froid, de ne pas faire de gestes brusques. Ça me permet, pendant que je dis ça, de préparer les autres phrases qui vont suivre. Pour ne pas bégayer, pour leur montrer que je gère la situation, que je ne suis pas un novice. Quoi. Et à ce moment-là, je demande à la guichetière de m'appeler le directeur d'agence. Et une fois qu'il arrive à ma hauteur, je rouvre ma veste avec le calibre sur le côté, toujours sur le côté gauche. Et s'il fallait que je le prends avec la main droite. Et il n'y a jamais eu besoin. J'ouvre juste de la veste. Je lui dis, t'as vu ce que j'ai sur moi? Tu vas faire exactement tout ce que je te demande de faire. Tu vas rester calme. Plus vite, je repartirai. Et plus vite, tout le monde sera à l'abri. À toi de voir et à toi de savoir ce que t'as à faire. De faire descendre un par un tous les employés qui étaient à la banque. Je les faisais rentrer dans une pièce. Je n'attachais personne. Je pense qu'ils étaient déjà attachés par rapport à la vision de mon âme. Et à ce moment-là, je disais au directeur, voilà quoi, je suis venu prendre ce qu'il y a dans le coffre et ce qu'il y a dans le distributeur. Et que je le laisse aller enclencher la temporisation. Parce qu'un coffre, ça ne s'ouvre pas comme ça. Il faut mettre une temporisation, c'est-à-dire il va rentrer un code. Et une fois qu'il a rentré le code, il va falloir attendre une quarantaine de minutes. Pour le coffre, il n'a pas besoin d'appeler. Je suis toujours tombé sur des directeurs d'agence qui étaient habitués à le faire. Il suffit juste de taper son code, et après, on attend. Et dès que le temps s'est écoulé, le coffre est ouvert. Mais quand je parle de coffre, c'est pas un coffre qu'on tourne. C'est une salle, c'est une pièce. Il tape un code, on attend la minuterie, et la pièce s'ouvre, et j'entre à l'intérieur, et voilà. Je mettais l'argent dans un sac poubelle. Et le distributeur, c'est différent. Il doit prendre son téléphone, expliquer, donner les raisons pour lesquelles il ouvre le distributeur. À lui de savoir ce qu'il a à dire, à lui de se souvenir les termes qui sortent tous les jours quand il a besoin d'ouvrir ce distributeur. Je veux juste qu'on me donne ce que je demande. Et là, ça peut prendre une trentaine de minutes. Vous additionnez 40 plus 30, ça fait ce que ça fait. Aux horaires où j'arrivais, je me retrouvais à être le seul. Et ils ont un temps qu'ils peuvent rester dans la banque avant que la télésurveillance passe le premier coup de fil pour savoir comment ça se fait qu'ils sont encore à l'intérieur. Une heure et demie. Si j'ai affaire à un directeur qui ne veut pas en découdre avec moi face à face, rien ne l'empêche d'aller déclencher une alarme silencieuse reliée à un commissariat. Au contraire, c'est peut-être pour ça que je l'ai laissé se balader comme ça. Il avait tout à loisir de déclencher l'alarme, mais ça n'a jamais été fait. Il revenait, il s'asseyait avec le personnel. Et je leur demandais de baisser la tête, de ne pas me fixer. Je préférais qu'ils ne gardent pas une image de mon visage pour pas en rajouter avec l'image de l'arme. C'est des chocs émotionnels trop forts. ça ne nous empêchait pas d'établir un contact, me demandant pour quelle raison je faisais tout ce que je faisais. Je me suis souvent retrouvé face à du personnel que j'ai mis à l'aise. Et c'est pour ça qu'ils ont pu prendre la parole. Je leur ai jamais dit « je ne veux pas vous entendre ». C'est juste vous baissez les yeux, vous mettez vos pièces d'identité, vos portables sur la table. Voilà, on discutait. Pourquoi vous faites ça? Vous n'allez pas chercher de travail? Vous savez ce que vous risquez? Vous savez, hein, je fais ça, c'est peut-être parce que je n'ai pas trouvé autre chose à faire et peut-être que derrière, je recherche autre chose. Mais maintenant, leur dire que je cherchais à me faire allumer, je ne voulais pas qu'ils comprennent que dans ces mots-là, que j'étais vraiment déterminé et que ça pouvait être la fin pour eux si jamais la police arrivait. C'est entre moi et la police. Pas entre eux, moi et la police, non. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça le truc. C'est que je voulais laisser aussi psychologiquement en dehors de tout ça. Et à chaque fois, c'est oh, on vous remercie beaucoup, c'est gentil. Je partais avec le trousseau de clés du directeur, je l'ai fermé à clé. Le trousseau me permettait de pouvoir ouvrir les portes et de sortir. Je reprenais ma voiture et je repartais sans accélérer, sans rien. Je repartais tranquillement. Ça pouvait laisser tout le temps à toute force de l'ordre de me rattraper. C'est jamais arrivé. Jamais.
À suivre.
Sur le 11 banques, jamais.
Sur arteradio.com.
Vous êtes toujours sur 48FM dans cette émission autour de la découverte de la création sonore et radiophonique. Nous vous proposons de terminer désormais la série documentaire de Pascal Pascariello, produite par arteradio.com en partenariat avec Slate, intitulée « Les braqueurs ». Et nous allons terminer en entendant le dernier épisode consacré à Tito. Tito qui s'est rendu lui-même après 4 jours de cavale, arrêté en 2005 pour avoir commis 11 braquages de banque en 5 mois. Il prend 6 ans de prison. Aujourd'hui, il est éducateur à Bobigny et a écrit son histoire dans Confession d'un braqueur suicidaire. Il participe également à la préparation d'une série Standing.
On va pas se mentir, c'est vrai que l'argent que je prenais, je sortais, je m'éclatais, je me défonçais la tête. J'en suis pas pour autant plus riche aujourd'hui, j'ai pas un château, je roule pas dans une Porsche ou quoi que ce soit. Ce qui veut dire que ce que j'ai pu prendre n'a pas servi à grand-chose, quoi. Oh, j'ai fait le con, ouais, sur tout ce que j'ai fait, mais faire le compte, non.
Les braqueurs. Tito. Épisode 3.
Les plus petites sommes, c'était entre 75 et 80 000. Les plus grosses sommes, c'est 115 000, 120 000 euros. Je sais que j'ai pu être dans les 480 000 euros, un truc comme ça. Je sais même pas ce que j'en ai fait. On va dire que cet argent, je l'ai brûlé dans n'importe quoi. C'était pas de l'argent que j'allais investir dans la pierre ou dans quoi que ce soit, quoi. Avant, je sais que cet argent, n'importe qui pouvait me demander 10 000, 15 000, 20 000, je le donnais. Aujourd'hui, je sais que certaines personnes ont pu profiter de cette largesse à ces moments de faiblesse. Moi, j'ai pu prendre deux ou trois fois 110 000 euros en sortant. Prendre ça en une heure, hein, quand tu sais que tu as des gens qui mettent un an, voire deux ans, ou je sais pas combien d'années, pour économiser 110 000 euros, je les prends en une heure. Je suis pas quelqu'un de matériel à la base, je suis pas quelqu'un de vénal qui aime l'argent. Je me suis acheté une 306 cabriolet, mais je l'ai acheté, non pas pour moi, je l'avais acheté Parce que même après ce divorce-là, même quand on s'était séparés, je revoyais quand même mon ex-femme. On s'était quand même revus 3-4 fois. Et je la voyais pendant que je braquais, mais et je lui ai pas dit. Et la 306, j'avais un rendez-vous avec elle. J'avais envie de l'épater, je pense. Et, j'ai acheté la 306 et je l'ai payé cash. Et je suis venu la chercher avec la voiture, sans assurance, sans rien. J'avais juste envie de l'épater un peu, quoi. J'aurais pu prendre quelque chose de plus gros, quelque chose de plus exubérant. Mais moi, j'ai trouvé qu'à ce moment, la 306 était élégant pour elle, discret pour moi. Elle ne le savait pas. Elle l'a su quand je lui ai passé un coup de fil en prison. Et je l'ai appelé de la prison pour lui dire que je pourrais pas honorer mon rendez-vous. Elle me dit pourquoi ? Elle me dit parce que là où je suis, la prochaine fois que si on se revoyait, ça serait dans des années, dans des années, dans des années, dans des années. Elle me dit je comprends pas ce que tu dis, je suis en prison. Et voilà. On aura beau prendre des milliers, des cents, mais ça vaut pas la liberté d'être avec sa famille, d'être avec ce qu'on aime. C'est pour ça, à l'heure d'aujourd'hui, je vois pas l'intérêt. Même si mes poches sont vides, j'ai aucune raison de vouloir retourner pour aller braquer, pour me remplir les poches. J'ai nullement cette envie-là. Je sais que je retomberai pas dedans. Je suis pas un braqueur de banque à la base. C'était une porte que je laissais ouverte pour mourir. Mais je suis pas un braqueur de banque. C'est-à-dire que j'ai pas besoin tous les jours essuyer la sueur qui coule de mon front à me dire je lutte pour ne pas y aller, non. Il faudra que ça soit pour une cause. Tu me dis demain, un de mes gamins, un membre de ma famille, quelqu'un que j'aime profondément, est au pied du mur, mais une question de vie, hein. Pas une question de matériel, une question de vie, et qu'il lui faudrait 500 000 euros pour une opération. Je saurais comment faire pour aller lui chercher l'argent. Je peux aller te braquer une banque et repartir propre. Ça m'intéresse pas, mais je pourrais le faire. 11 banques en 5 mois. C'était un peu ça le quotidien, mon quotidien. Ouais, j'entrais, je déposais l'argent, je buvais ma bouteille d'alcool et fin de l'histoire. On attendait la prochaine banque qui pouvait se faire le mois d'après. On va dire que je mettais du temps à m'endormir. Et même quand j'avais cette impression d'avoir dormi, mon corps était toujours autant fatigué. Comme si j'avais l'impression de me réveiller à chaque fois, tellement mon cerveau à ce moment pouvait travailler. Tellement je réfléchissais à ma vie passée. C'était les seules choses qui étaient dans ma tête, quoi. Je voulais pas me faire arrêter, je voulais me faire effacer. Arrêter, c'est pas du tout ce que je souhaitais. Ça m'aurait fait chier qu'ils viennent comme ça pour m'interpeller alors que j'ai pas eu ce que je voulais. Mais quand j'arrivais au niveau de la dernière banque, là, j'ai commencé à être pris d'un cas de conscience et je me suis dit, bon, vas-y, t'arrives pas à avoir ce que tu veux. Je crois que la meilleure des solutions, c'est de te rendre, de te faire enfermer pour qu'on puisse t'aider à comprendre tout ce qui s'est passé, quoi. Faut peut-être se livrer, faut peut-être commencer à assumer ses actes pour pouvoir commencer à enclencher le processus de guérison pour arriver à comprendre ce qui nous a fait basculer dans tout ça, quoi. C'est de voir le visage de sa famille, de savoir qu'on les prend en otage de nos actes, d'avoir une mère qui fait tel âge et avec toute cette souffrance de son fils, lui en faire prendre 10 de plus. On dit c'est bon, on va arrêter tout ça et on va faire en sorte que tout le monde puisse arriver à souffler, quoi. Sur le terrain de basket que j'étais, au moment où, ils ont voulu procéder à l'interpellation. J'étais assis sur ce banc-là, face au panier de basket, et j'ai vu un mec passer sur le trottoir et un autre passer de l'autre trottoir, et qu'ils se croisaient. Et comme je suis de nature à toujours regarder à droite, à gauche, ça m'a semblé bizarre, un tel manège. Et c'est à ce moment-là que j'ai su que c'était la police, j'ai vu un gars sur le toit, et j'ai vu une blonde avec un petit à talons sur le terrain de basket. Pour moi, c'est des images qui ne collaient pas du tout à l'environnement où on était. Alors, j'étais assis avec un ami. Je lui ai dit, Christian, tu sais, là, je sens qu'on va m'arrêter. Il me dit, pourquoi tu dis ça? Je ne peux pas t'expliquer, mais il y a la police qui est là, et ils sont là pour moi. Je vais te demander de faire quelque chose pour moi. On va faire comme si on se chamaillait. Tu vas m'accompagner jusqu'à l'ascenseur, et une fois que je suis à l'ascenseur, bloque-les pour moi. C'est tout ce que je te demande. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. On s'est chamaillé, on a fait comme si. On est arrivé jusqu'à l'ascenseur dans le hall où on était tout à l'heure. Il a bloqué l'ascenseur, j'ai eu le temps de monter chez ma famille, de leur expliquer la situation, de les prendre dans mes bras, tout et tout. Et de monter chez une famille qui m'a accueilli. Et je suis resté 4 jours là. Je fais quoi? Je les appelle pour leur dire que je suis là, qu'ils viennent me chercher. Je dis, ben non, finalement, je vais pas leur faciliter la tâche. Je vois pas pourquoi j'irai me livrer comme ça. Ils ont pas pu m'arrêter pendant tout ce temps-là. Alors j'irai me rendre et c'est pas eux qui auront le bénéfice de cette arrestation-là. Ça se passera pas comme ça. Au bout du quatrième jour, j'avais décidé de mettre un terme, d'aller me livrer à la police. Mais avant tout ça, c'était d'abord de passer une petite soirée agréable, en boîte, une soirée bien coquine en compagnie d'une demoiselle. Et après, à ce moment-là, là, je me suis livré de moi-même à la police. Je me suis rendu au commissariat. Parce que tout le monde, bien sûr, surpris du fait que avec 11 braquages derrière le dos, on se livre de soi-même. Ça mettait un terme à une vague de séries de braquages que eux-mêmes n'arrivaient pas à stopper parce que j'ai eu affaire à un commissaire quand il est venu qui m'a dit que ce genre de situation, lui, face à moi, ça lui rappelait sa jeunesse quand il avait affaire à des voyous qui se comportent en bonhomme. Ça m'a fait plaisir sur le moment. En même temps, je me suis dit, ça va pas empêcher que tu me foutes au trou. Voilà. 6 ans. C'est une fois incarcéré que j'ai commencé à voir les psychologues. J'ai dit, attends, mais une petite maman, normalement, qui est super pimpante, super belle, là, regarde, t'as l'impression qu'elle en fait 10 de plus. T'y es pour quelque chose. Après, là, j'ai décidé de me prendre en main, tout ça. Pour ça, je dis, celui qui est en prison et qui dit que je n'y retournerai plus, mais quoi qu'il arrive, il va y retourner. Mais s'il dit, je ne ramènerai pas mes proches, ma mère ou quelqu'un qu'il aime, mais là, on peut lui faire confiance. Parce que lui, il cherche à protéger quelqu'un. J'étais papa pendant que je braquais. J'ai pu voir cet enfant 2 mois avant de tomber en prison. C'est-à-dire que lui et moi, on a appris à se découvrir en détention. Quoi. Je me suis dit, c'est pas ici que je peux leur être utile et c'est pas là qu'ils ont besoin de moi. Ils ont besoin de moi à l'extérieur. Ouais, ça a accéléré pas mal de choses. Le fait de les voir, ça me donnait plus de force pour tenir parce que je me suis dit, plus vite je suis dans la guérison et puis je sortirai. Et puis je pourrais m'occuper d'eux. C'est à l'extérieur qu'ils ont besoin de moi, c'est pas à l'intérieur.
La psy, je l'ai vue sur un an ou deux ans.
Au début, un peu réticent, je me suis pas trop ouvert.
Et après ça, à la fin, c'est même pas sorti de sa bouche. Je crois que c'est sorti de la mienne où j'ai dit « Ah, mais je me sens bien ». Rien que le fait de m'ouvrir, de parler, déjà, c'était déjà quelque chose de bien parce que je gardais tout. Et tout garder, ruminer comme ça, c'était pas bon. Voilà. Ben aujourd'hui, je me sens super bien. Je suis serein, je suis tranquille avec moi-même, je suis en paix. Je me dis, mais comment j'ai pu faire pour passer à l'acte? Il m'a fallu une force incroyable pour me prendre la voiture, me déplacer, rentrer dans une banque, aller la braquer. Après, je me dis, la finalité, personne à l'abri de quoi que ce soit. Un petit grain de sable peut venir huiler toute une mécanique. Là où on se croit fort, un petit truc peut venir démonter n'importe qui. Et avec le recul, je me dis, waouh, j'ai fait effort. Hein. Et aujourd'hui, je me demande si j'en serai encore capable. Oui, je saurais comment faire, mais de là à passer à l'acte, je pense pas. Je pense pas. Parce que j'ai peut-être un autre but, j'ai peut-être autre chose qui m'anime que cette idée de bord.
Arte Radio.
Voilà. C'était Confession d'un braqueur suicidaire.
Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On espère que ces découvertes de portraits de braqueurs vous ont intéressé. En tous les cas, voilà, on vous a proposé ce travail sur le son, sur le documentaire. Proposé donc par arteradio.com en partenariat avec Slate. Et c'est un travail de Pascal Pascariello que vous avez entendu tout au long de ces 3 semaines. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Le sujet sera très différent puisqu'il s'intitule « La route du bled ». C'est un documentaire de Halima El Khattabi, produit également par arteradio.com. Rendez-vous la semaine prochaine.